si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce que c'est que révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits comme un bouclier. Il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Alors tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure. Et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient. Aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés. Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et ils t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Tiens, j'ai déjà l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables, tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Voilà, jusqu'ici, à propos de tous les avantages immenses qu'il y a à devenir sage. Alors, c'est, comment dire, un texte qui parle de lui-même dans tous ses aspects pratiques et qui pourrait avoir aussi beaucoup, beaucoup de répercussions à développer. On va juste l'aborder sous différents aspects avec, on va dire, deux grandes partie. La première concerne les bénédictions pratiques, c'est tout le chapitre 2 et jusqu'au verset 12 du chapitre 3. Toutes les bénédictions pratiques, tous les avantages, tous les bénéfices qu'il y a dans une vie personnelle à acquérir la sagesse selon Dieu. Et puis la deuxième partie prend une dimension encore plus vaste, encore plus immense. On verra comment la sagesse rend heureux. Et le but du Seigneur, de notre Père, c'est vraiment de nous rendre heureux. Dans la première partie, donc, pour des bénédictions pratiques, on verra qu'il y a d'abord une implication de soi-même et 7 efforts qui sont mentionnés pour que l'on puisse acquérir la sagesse. Et après, on verra que il y a un certain nombre de récompenses qui sont promises, donc dans une deuxième partie, concernant les trajectoires de vie. On verra aussi dans un troisième aspect quelles sont les protections et de quoi le Seigneur nous préserve. On verra ensuite l'héritage qu'il promet à ceux qui sont sages. Et puis enfin, on verra comment l'acquisition de la sagesse promet aussi des effets sur la qualité de vie pratique au jour le jour. Alors donc, d'abord, concernant toutes ces bénédictions pratiques, les 7 efforts. S'il est dit quelque part, et on l'a lu, que c'est l'Éternel qui donne la sagesse, elle ne tombe pas comme ça, au détour d'un chemin, sans que on y est impliqué sa personnalité, ses désirs, sa personne. Et on lit ça dès le premier verset du chapitre 2. Mon fils, si tu acceptes mes paroles. Il faut accepter les paroles du Seigneur, et donc ça veut dire qu'il faut les prendre au sérieux. Ensuite, il faut les conserver. Si tu conserves mes préceptes, ça veut dire qu'il faut les intégrer, il faut les assimiler. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, il faut lire la parole, il faut l'écouter, il faut être attentif aux paroles que le Seigneur nous communique. Accepter les paroles, conserver les préceptes, prêter une oreille attentive, et il faut ensuite incliner son cœur vers l'intelligence. Ça veut dire avoir une disposition intérieure qui soit de bonne volonté. Il faut être bien disposé à l'égard du Seigneur et s'attendre à recevoir quelque chose de sa part. Ne pas jouer au plus malin, essayer d'être plus sage que la sagesse. Il faut même avoir un profond désir. Au verset 3, il faut faire appel au discernement. Il faut prendre conscience de notre insuffisance. Ça veut dire qu'il faut prier pour avoir la sagesse. Il faut appeler la sagesse en personne, le Seigneur, pour qu'elle vienne à notre secours. Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre à quel point on a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir se diriger dans la vie, dans l'existence et prendre des bonnes trajectoires. Et puis enfin, au verset 4, il faut la chercher comme de l'argent. Il faut creuser pour la trouver comme pour découvrir des trésors. Creuser, c'est veut dire approfondir. Ça ça veut dire se pas contenter d'être superficiel. Ça veut dire vouloir aller toujours plus loin, vouloir toujours plus profondément comprendre la pensée de l'Éternel. Ça veut dire montrer de la passion dans l'appréhension de la parole de Dieu, de la sagesse que le Seigneur veut nous communiquer. Voilà, donc je les résume. Accepter ses paroles, conserver ses préceptes, prêter une oreille attentive, écouter, incliner son cœur, faire appel au discernement. Discerner, ça veut dire vraiment pouvoir être capable de dire ce qui est bien de ce qui est mal. C'est dans la parole de Dieu que ça se trouve. Si vous écoutez ce qui se dit aujourd'hui dans tous les médias qui véhiculent la pensée du monde, vous allez entendre beaucoup de choses que vous ne trouverez pas dans la Bible, et pour cause, elles sont souvent plutôt maintenant à l'inverse de ce que dit la parole. Donc c'est important de faire appel au discernement, savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'était la promesse du diable dans la Genèse. Il va dire, si tu désobéis à Dieu, tu sauras toi-même ce qu'est le bien et le mal. Et aujourd'hui, les hommes sont perdus. Ils ne savent plus discerner le bien du mal. Dans la parole de Dieu, on retrouve le bon sens. Et donc, il faut rechercher l'intelligence et creuser pour la trouver, approfondir, se passionner. Voilà, donc c'est la première partie. Ça demande des efforts, ça demande une disposition de cœur, ça demande un engagement de son être tout entier, de sa parole, de sa pensée, de ce que l'on fait, et de ce que l'on vit, de ce pourquoi on se passionne. Et il y a donc des bénédictions, c'est le thème du jour, et les versets 5 à 10 nous donnent un ensemble de récompenses promises, des gains, des avantages dans les trajectoires de vie. La première, au verset 5, il dit « Alors tu comprendras ce qui est révélé l'Éternel, tu apprendras à connaître Dieu. » Jésus lui-même, dans sa prière, dans Jean 17, a dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est par la parole de Dieu qu'on apprend à connaître la pensée de Dieu. Tu apprendras à connaître Dieu. C'est un chemin, l'acquisition de la sagesse, vers la connaissance de Dieu et donc vers la vie éternelle. Ensuite, il nous est dit que, verset 6, c'est l'Éternel lui-même qui donne la sagesse. Et c'est une récompense. Si on est engagé, si on la désire, si on fait appel, alors le Seigneur donne la sagesse. Et ça vaut pour le peuple de l'époque qui écoutait ces paroles des sages, comme pour nous aujourd'hui, qui sommes à l'écoute de toute la parole de Dieu, et en particulier lorsqu'elle est répétée par les apôtres. Jacques, donc au chapitre 1 de son épître, verset 5, nous dit la chose suivante. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Voilà Jacques qui nous rappelle que Dieu ne demande qu'une chose, c'est de nous donner la sagesse. Par contre, il faut la chercher de tout son cœur, avec un cœur entier. C'est l'Éternel qui donne la sagesse, et en plus de ça, ses paroles vont nous donner connaissance de Dieu et intelligence. Selon le verset 6. Alors là, on n'est pas dans le domaine scolaire, on n'est pas en train d'acquérir des connaissances et de l'intelligence pour passer le concours et rentrer à l'ENS, mais ça a beaucoup plus de valeur. En fait, ça ne concerne pas que les choses pratiques pour le monde d'aujourd'hui, ça concerne dans une certaine mesure la vie d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les choses qui concernent, qui sont essentielles à notre bonheur, mais ça va beaucoup plus loin, ça va au-delà de ce que l'on voit, et il s'agit ici des paroles qui procurent l'intelligence du divin. Ça nous aide à comprendre la pensée de Dieu, et ça nous amène dans une dimension vraiment céleste et spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avantages pratiques, et on le verra encore tout à l'heure. Par exemple, les récompenses accordées aux sages, donc toujours dans le chapitre des récompenses, il y a au verset 7 le salut. Alors qu'est-ce que c'est que le salut ? On voit souvent le salut comme étant le moment où on reçoit le Seigneur Jésus dans notre vie et où on passe de la mort à la vie et où finalement on échappe à l'enfer pour accéder au paradis. Tout cela est vrai, mais le salut, ça n'est pas simplement être arraché d'une condition de pécheur et de mort pour en être sorti. C'est vraiment avec une vue qui consiste à changer totalement de trajectoire. On est sauvé pour une vocation. Le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte, sauvé d'Égypte, pour une vocation terrestre. L'Église a été sortie du monde. Chaque individu dans l'Église a été sauvé pour une vocation céleste. Et nous avons une vocation céleste. Et c'est ce que la parole de Dieu nous apprend, nous enseigne. Et c'est par elle que nous pouvons vivre le salut, c'est-à-dire cette trajectoire, et ayant été sauvé par le sang de Jésus et étant entré dans la vie éternelle par la parole de Dieu, nous pouvons grandir, croître, être sanctifié et vraiment accomplir notre vocation dès aujourd'hui et dans l'éternité. C'est l'Éternel qui... les récompenses accordées aux sages, donc on a dit le salut. Ensuite, la protection. La protection, ça c'est au verset 7 et 8. La protection contre les mauvais choix de vie. Et ils s'en présentent tous les jours. On a donc vraiment besoin de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu, pour être protégé contre les mauvais choix de vie. Encore une fois, au verset 9, revient le discernement. Le discernement de ce qui est juste, droit et équitable. Donc, qu'est-ce que le bien ? Ce qui est juste, ce qui est droit et équitable. Et bien sûr, là encore, selon la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la justice, le droit, l'équité sont de plus en plus éloignés de ce qu'est la norme de Dieu. On entend parfois des prononcés de jugement qui nous retournent. On se dit, mais comment c'est possible que la justice puisse devenir à ce point au service du mal ? La connaissance, nous est-il dit au verset 10, fera tes délices. Ça, c'est aussi une des promesses de Dieu, c'est que acquérir la connaissance, acquérir la sagesse, se passionner pour la parole, c'est pas comme devoir avaler un bouquin d'histoire pour passer l'examen la semaine prochaine. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut avaler, et puis après, c'est quelque chose qui, lorsqu'on entre dans cette dynamique-là, dans cette trajectoire-là, nous promet des délices. Donc le Seigneur ici promet que la parole de Dieu, lorsqu'on s'y passionne, lorsqu'on se passionne pour elle, nous procurera des délices. C'est vraiment un mot qui est subtil. Bon, dans le français, il sonne très bien, je ne sais pas comment ça sonne ailleurs, mais c'est quand on est dans l'excellence de l'excellence, dans la subtilité de ce qui est bien et agréable. Voilà les récompenses. Apprendre à connaître Dieu, l'Éternel nous donnera la sagesse, ses paroles nous procurent de l'intelligence, et nous avons de grandes récompenses, ni plus ni moins que le salut, la protection contre les erreurs qui se profilent sur notre chemin tous les jours. On peut donc discerner mieux le bien et le mal, et être dans une projection de connaissance qui nous rend heureux. Ensuite, il y a encore trois protections majeures qui nous sont indiquées. Ce sont les versets 11 à 18, qui sont donc des bénédictions aussi de la sagesse, et ce sont des protections, des préservations qui sont promises contre les faillites et les voies mortelles de l'existence. Certaines avaient été abordées par Jonathan la semaine dernière. La première qu'on va citer, c'est au verset 12, « Pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin. » Donc, les mauvaises voies, les propos fourbes, prendre des mauvaises orientations, s'engager dans les voies du mal, suivre ceux qui ont des fausses bonnes idées et qui voudraient nous y entraîner. La parole de Dieu, la sagesse de Dieu est un garde-fou, elle nous aide et il faut vraiment la désirer. Et ce qui est étonnant, ce qu'on lit dans les versets 13 à 15, c'est que dans le chemin du mal, lorsqu'on s'y engage, eh bien, c'est aussi une dynamique sans fin. La sagesse de Dieu nous donne une protection contre le fait d'abandonner le droit chemin, de s'engager dans des sentiers obscurs. Elle nous protège de ceux donc qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité. Et ça, c'est quelque chose aussi dans l'existence qui est un principe, c'est qu'on ne peut pas stagner. On n'est pas dans une situation, c'est soit on s'enfonce, soit on va dans le chemin de l'éternel. Et si on stagne comme des funambules, à un moment donné, on tombera d'un côté ou de l'autre. Mais la vie est dynamique et il faut emprunter la bonne trajectoire. Et quelque part, faire des mauvais choix, on peut être parfois tenté de dire « allez, juste ça », et puis après, je reviendrai à quelque chose de plus raisonnable. Mais en fait, c'est un puits sans fond. Et donc la promesse de Dieu aux sages, la sagesse de Dieu promet de préserver ceux qui seraient tentés de s'engager dans des voies qui pourraient les emmener bien plus loin qu'ils n'imaginent. Et puis il y a donc premier danger, les mauvaises voies, les propos fourbes. Deuxième danger, s'engager dans les voies du mal. Et le troisième danger, qui est ici très développé finalement, parce qu'il utilise 5 versets, versets 16 à 19, enfin 4 versets, pardon, c'est la préservation de l'adultère. Tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. C'est un, pour que ce soit à ce point présenté, c'est que c'est un grand danger. Donc ici, la sagesse, la parole de Dieu, vous nous a attiré notre attention sur la nécessité de faire les bons choix de vie, ces choix concernant le conjoint qui sont tellement structurants pour toute une vie. Et une fois qu'on est engagé dans une relation légitime avec Dieu, la nécessité de se protéger contre ce qui est ici appelé la femme adultère, celle qui abandonne son époux, celle qui oublie l'alliance conclue au nom de son Dieu. Et effectivement, souvent lorsque Israël s'est détourné de Dieu, c'est souvent lorsque ils ont fait des alliances avec des femmes étrangères qui n'avaient pas la même passion pour le Dieu d'Israël, et ils se sont laissés détourner et ils ont perdu leur âme. Et souvent, ça a été catastrophique pour tout le peuple. C'est un très très grand danger pour tout homme et toute femme que de faire les mauvais choix dans ce domaine de la vie. Donc il faut chercher la sagesse, demander vraiment au Seigneur de nous diriger dans la vie concernant le choix d'un conjoint. Et puis ensuite, il faut rester fidèle aux engagements de sa jeunesse. Même quand c'est pas facile, il faut s'attacher à ce que l'on a promis et croire que Dieu aussi nous promet de grandes récompenses. Et en l'occurrence, l'inverse, comme la voie du mal qui emmène inexorablement vers la mort, il nous dit qu'elle sombre vers la mort qui est sa demeure, parlant de la femme adultère, sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient, aucun ne retrouve les chemins de la vie. Voilà, il y a des voies qui sont terribles et qui amènent à la perdition. La sagesse permet de s'en préserver. On a vu les efforts qu'il faut faire, les récompenses sur les trajectoires de vie. On vient de voir les trois protections promises contre les mauvaises voies, les propos fourbes, contre les voies du mal, contre l'adultère. Et maintenant, on va voir, quatrième point de ces bénédictions pratiques, l'héritage promis concernant le lieu de vie. C'est les versets 20 à 22. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien, tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Mais les méchants seront extirpés et les traîtres en seront arrachés. Ici, les proverbes nous parlent de l'héritage qui est promis aux justes. D'abord, donc ils sont de deux ordres. D'abord, le sentier des justes au verset 20. Tu suivras les sentiers des justes. Et pour l'illustrer un petit peu, on va un petit peu plus loin dans le chapitre 4 des proverbes au verset 18. Parle de ce qu'est le sentier des justes. Proverbe 4, verset 18 nous dit que le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. C'est le chemin de la lumière, c'est le chemin de la connaissance de Dieu qui va croissant, qui va dans une dynamique. Le sentier des justes, c'est ça, c'est connaître Dieu, connaître Christ, jusqu'à ce qu'il paraisse et que l'on puisse connaître comme nous avons été connus. Et donc c'est une première promesse. Et la deuxième, les hommes droits habiteront le pays. Ces paroles s'adressent à Israël qui attendait le pays de la promesse, qui occupait le pays de la promesse et qui voulait en prendre la pleine possession. Et donc ce pays était réservé dans la pensée de Dieu, à ceux qui lui obéissent. On a vu comment, lorsqu'on lisait le livre des Nombres, comment lorsque les Israélites se détournaient de Dieu ou se révoltaient, comment alors aussi le pays de la promesse s'éloignait pour eux, ou l'entrée dans la promesse, dans le pays de la promesse, se retardait. Et donc, attaché à la sagesse, attaché à l'engagement dans la voie de la sagesse, il y a l'héritage du pays promis. Alors ça valait donc pour les Israélites de ne pas être retranchés de ce pays, mais bien sûr ça vaut aussi pour nous, pour l'héritage céleste que le Seigneur nous promet. Et quelque part il y a une dimension, l'apôtre parle d'une entrée qui nous sera largement ouverte si on marche dans les voies du Seigneur. Donc il y a un intérêt à se passionner pour la parole de Dieu, à vivre dans la sanctification, parce que l'entrée dans le pays nous sera plus largement donnée. Quelque part, le Seigneur nous promet un héritage à la dimension de notre passion. Voilà l'héritage, le sentier des justes et l'habitation du pays. Et ensuite, disons que je disais une cinquième liste, enfin un cinquième aspect, l'acquisition de la sagesse promet des effets sur la qualité de vie pratique. Alors, la première des choses, au chapitre 3, verset 2, « Ils rallongeront tes jours, ajouteront des années à la durée de ta vie. » Alors, toutes ces bénédictions pratiques, finalement, on pourrait se dire, « Alors, si je suis sage, tout ça, je vais avoir une vie nickel. » Or, ça, je crois que Jonathan l'avait dit la semaine dernière, c'est pas une garantie pour que tout ira bien dans notre vie. Et l'expérience prouve justement qu'il y a parfois des épreuves dans l'existence. Et il y a même le psalmiste, à un moment donné, s'interroge. Il dit, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait, et pourtant, ce que je vois, c'est que moi, je suis dans la misère, et que les méchants autour de moi, ils réussissent. Et il dit, à la fin, il dit, mais en fait, j'ai réfléchi jusqu'à ce que je prenne conscience du sort
finale du méchant. La fin de l'histoire, c'est la réalisation des promesses. Ce sera peut-être pas sur cette terre, ça peut être sur cette terre pour beaucoup, mais c'est garanti, la fin de l'histoire, c'est ce que nous allons trouver ici, en commençant par la prolongation de la vie. Alors si on vit sagement, on a toutes les chances d'améliorer sa santé et de vivre plus longuement, et d'être préservé des accidents d'existence. Mais encore une fois, on peut aussi souffrir dans l'existence présente, mais le Seigneur nous a promis et nous a donné, et nous l'avons déjà, en Jésus-Christ, si nous l'avons accepté, la vie éternelle. Et si ça n'est pas la prolongation de la vie, qu'est-ce que c'est ? Ensuite, au verset 4 du chapitre 3, nous obtiendrons l'obtention des faveurs de Dieu et des hommes. Et nous obtiendrons au verset 4 aussi une réputation honorable. Tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, la réputation d'être un homme de bon sens. Le péché conduit à la ruine. Si notre vie, dans tout ce qu'elle a été dans sa totalité depuis notre naissance, était mise en pleine lumière, nous serions vraiment des gens pleins de honte. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on est touché par le Saint-Esprit, convaincu de péché, de justice et de jugement, on sait qu'on a besoin d'un sauveur. Et le Seigneur nous donne sa propre justice, sa propre réputation, sa propre sagesse. Il nous l'applique par sa fréquentation, par sa personne, par ce qu'il est vivant en nous. Nous obtenons une dignité qui nous permet même d'être, de pouvoir entrer au-delà du voile dans la présence de Dieu, d'être appelés ses enfants et ses fils d'adoption. Donc nous avons un héritage dans l'acquisition de la sagesse. Dans l'acquisition de la sagesse, lorsque Christ est en nous, lui-même sagesse, qui est incommensurable, parce que nous retrouvons une dignité insoupçonnable et une réputation, une dignité dans le royaume de Dieu qui est quelque chose qui est bouleversant, parce que nous étions par nature des enfants de colère, perdus, et nous rougissions même, dit Paul, de nos œuvres. Voilà, on obtient les faveurs de Dieu et même des hommes, une réputation honorable. Nous obtenons, verset 6, un guide dans les voies de l'existence. Il te conduira sur le droit chemin. On peut dire qu'elle a aussi un effet positif sur la santé du corps. Ça, c'est aussi les aspects très pratiques. Comme je dis, c'est pas toujours la réalité ici-bas, mais ça viendra lorsqu'on sera en corps ressuscité. Croyez-moi, on sera en dehors d'atteinte de tous les maux que nous pouvons rencontrer ici-bas. Elle a un effet, ceci dit, positif sur la santé, et il vaut mieux prêter attention au mode de vie que le Seigneur nous recommande, que de vivre n'importe comment. Elle a un effet positif sur la santé du corps et sur la vitalité de l'être, au verset 8. Au verset 10, pratiquement toujours, sur la qualité de vie pratique, la parole de Dieu nous invite à être généreux envers l'Éternel avec les biens matériels, en nous disant qu'en retour, le Seigneur ne sera pas injuste, et que nous serons récompensés. Et puis enfin, au verset 11, c'est aussi quelque chose de pratique. Si nous sommes confrontés à des épreuves, alors nous sommes exhortés à être patients. La patience qui est un don de Dieu lors des épreuves de l'existence, c'est aussi une marque de sagesse. Et c'est aussi une marque de l'amour de Dieu. Ça, c'est repris d'ailleurs par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, chapitre 12, versets 5 et 6. Et ça, on va le lire parce qu'il y a donc cette référence directe. Si quelqu'un le trouve avant moi, on peut le lire. Hébreux 12, 5 et 6.
Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu vous adresse cette parole comme à des fils. Voilà, c'est repris dans le Nouveau Testament. Et c'est un grand bénéfice, et c'est quelque chose qui nous aide à supporter les difficultés de la vie pratique, c'est une promesse de la sagesse. Voilà, donc les rappels, la prolongation de la vie, l'obtention des faveurs de Dieu, une réputation honorable, un guide dans les sentiers de la justice, un effet positif sur la santé du corps, la vitalité de l'être, la générosité envers Dieu est récompensée en retour, et nous pouvons être armés de patience face aux épreuves de l'existence. Voilà, ensuite donc, et là c'est la deuxième partie qui prend une dimension encore plus grande, on va dire dans son ampleur, il nous est dit que finalement l'acquisition de la sagesse rend heureux. Et à partir du verset 13, le verset 13 commence par une béatitude. Ces béatitudes, on en retrouve quelques-unes tout au long de la parole de Dieu, et c'est toujours quelque chose de très très précieux. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Et il nous explique pourquoi. Donc l'acquisition de la sagesse est une source de bonheur. C'est un trésor d'une valeur immense, d'une valeur même infinie. Voilà ce qui est développé ici dans les versets 13 à 20. Donc on change de dimension. Et il nous est dit au verset 14 que la sagesse a plus de valeur déjà que beaucoup d'argent. Il nous est dit que ses avantages, ses gains, sont plus précieux que l'or le plus fin. Tout ça nous parle de la valeur. Évidemment, l'argent, l'or le plus fin, sont les biens que l'on peut rechercher dans le monde parce qu'ils nous permettent d'acquérir beaucoup de choses, et c'était aussi le cas évidemment de tout temps, et ça l'est encore aujourd'hui. Beaucoup d'argent, l'or le plus fin, verset 15, plus de valeur que les perles et même que tous les trésors. Tout ce que l'on peut concevoir comme richesse, comme bien matériel, quelle que soit la nature, est de peu de valeur comparaison à l'acquisition de la sagesse. Et pour ça, l'exemple de Salomon, comme Jonathan l'avait expliqué l'autre jour, est vraiment précieux. Quand Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, et il n'a pas demandé de richesse, il a demandé uniquement la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse, et avec la sagesse, il lui a donné tout ce qu'il n'a pas demandé. Et donc, c'est un exemple pour nous, évidemment. Et ça nous montre à quel point la sagesse a une valeur infinie. Elle a donc plus de valeur que beaucoup d'argent, verset 14, que l'or le plus fin. Au verset 15, plus de valeur que les perles, que tous les trésors. Et donc, elle offre, au verset 16, une longue vie. Alors là encore, parfois on voit des gens disparaître plus tôt que prévu. Mais celui qui a reçu par la sagesse de Dieu la vie éternelle dans son cœur, qui a la vie éternelle, on peut dire que sa vie est longue. Et également, richesse et considération. Et Salomon a été infiniment riche, on pourrait dire presque infiniment riche, il avait des richesses extraordinaires, sa réputation a fait le tour de la région. La reine de Saba est venue le voir et elle a dit on ne m'en avait pas dit la moitié. Elle était subjuguée de voir tout ce qu'il avait pu acquérir comme richesse. Et ça, c'est l'Éternel qui lui avait donné parce que sa préoccupation était d'abord la sagesse. Verset 17, toutes ses voies mènent au bonheur. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. Tous ses chemins mènent au bonheur. C'est vraiment l'intention du Père. Nous donner le bonheur. Au verset suivant, « tous ces, donc verset 17, tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Alors l'arbre de vie nous renvoie à la Genèse. Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Elle nous renvoie à l'Apocalypse. Il y a l'arbre de vie au milieu du paradis. L'arbre de vie, c'est le centre du paradis. C'est le lieu du bonheur absolu. C'est la promesse de Dieu. C'est ce que nous avons retrouvé en Christ. Il nous a ouvert le chemin du paradis. Et donc la sagesse, l'acquisition de la sagesse de Dieu, c'est comme une nourriture, c'est comme une part déjà des prémices de l'arbre de vie. C'est déjà, parce que ça nous emmène sur la bonne trajectoire, le bonheur de l'éternité. Alors, le texte termine, versets 19 et 20, quelque part par une preuve que la sagesse a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'importance. Et quelle est cette preuve pour quiconque la possède ? Alors, l'auteur ici prend une analogie et il nous explique que cette sagesse que Dieu veut nous inculquer, qui est la sienne, qui est incarnée en Jésus-Christ, c'est par elle qu'il a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, avec tout le génie qu'il y a dedans. Et c'est cette sagesse-là que Dieu veut nous donner, alors pas pour que nous soyons Dieu et les créateurs qui aillent créer des cieux et des terres, mais juste pour que nous puissions prendre conscience que c'est le principe qui prévaut lorsque Dieu le déploie dans la création. C'est cette sagesse-là, c'est ça qui est dans la parole de Dieu. Au commencement était Dieu, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, a habité en chair et en os parmi nous. Et cette parole, Jésus, le Christ, il a été fait pour nous, sagesse. Il est notre sagesse. C'est cette même sagesse qui procède de Dieu, qu'il nous communique par sa parole, qu'il nous donne par son Fils. C'est par elle qu'il a créé l'univers. C'est la véritable intelligence. C'est le véritable bonheur. Donc, c'est la preuve qu'il donne ici, l'auteur, de ce que cette sagesse sert à quelque chose. Alors imaginez l'intérêt qu'il y a pour nous, pour notre vie, à en être équipé. On va lire juste quelques versets qui nous montrent comment nous pouvons aujourd'hui, par Jésus-Christ, par le Seigneur, obtenir la sagesse. Pour répondre à la question, savoir qui peut nous rendre réellement sages pour que nous puissions jouir des richesses que la sagesse procure. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Par lui, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Il est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Jésus est notre sagesse. C'est donc par Dieu que nous devenons sages. On a vu tout à l'heure que Jacques nous encourageait à demander la sagesse à Dieu. En Éphésiens 1, chapitre 1, verset 8, il nous est dit « Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il nous l'a répondu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. » Voilà, en Christ, nous avons tout pleinement pour connaître
le plan de Dieu. Et puis Colossiens 2, 3 nous dit que en lui se trouve caché, en lui, en Christ, se trouve caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà, donc un bref résumé, il y a beaucoup de bénédictions pratiques, beaucoup d'intérêt à acquérir la sagesse de Dieu. Il faut y mettre quelques efforts, il y a des grandes récompenses pour les trajectoires de vie, il y a aussi de grandes protections qui nous sont accordées. Le Seigneur nous promet un bel héritage. C'est lui qui nous choisit notre héritage et nous habiterons le pays de la promesse. Dès aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des bienfaits dans la qualité de vie pratique. Et puis donc, l'acquisition de la sagesse nous rendra heureux. C'est un trésor d'une valeur immense qui a beaucoup plus de valeur que tous les trésors que nous pourrions nommer. C'est un impératif que d'acquérir la sagesse, parce que soit on l'acquiert et on est dans la bonne trajectoire, soit on la méprise et on emprunte fatalement le chemin inverse. On ne peut pas rester au milieu, c'est ou tout l'un ou l'autre, ou on est sage selon Dieu, ou on est un insensé selon Dieu. Donc il y a deux dynamiques qui vont s'opposer, et il nous faut donc engager notre vie, notre personnalité, notre cœur, notre âme. C'est le premier commandement de Moïse. Tu adoreras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu le serviras lui seul. Et c'est ce qui nous permet de croître dans la connaissance de Dieu. Je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce texte d'aujourd'hui qui nous parle des bénédictions de la sagesse. Et dans ta parole, tu nous dis qu'il ne faut pas être sage à notre propre yeux. Il nous faut être sage selon ce que la pensée de Dieu nous communique. C'est quelque chose qui est inaccessible naturellement quand nous voyons tes exigences de perfection. Mais Seigneur, nous savons que tu nous as donné Jésus. Il est notre sauveur. C'est lui notre sagesse. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui peut nous rendre sages à salut, pour que nous puissions te ressembler, pour que nous puissions faire tes délices. Alors Seigneur, apprends-nous à aimer ta parole, à chérir ta parole, à nous passionner pour ta parole. Merci pour ces textes qui sont précieux pour nous. Et merci Seigneur pour les vraies richesses qui sont associées à la sagesse de Dieu. Elles sont bien plus précieuses que tout ce que la terre peut offrir, tout ce que le monde peut offrir. Seigneur, nous sommes transportés dans le paradis de Dieu, dans le lieu où se trouve l'arbre de vie, dans le lieu des délices. Et Seigneur, nous te remercions pour toutes ces promesses. Merci. Veuille nous accompagner chacun cette semaine dans cette pensée, au nom de Jésus. Amen.